l'infâme bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques, sans jamais rien avoir appris. C'était un vrai génie, question de travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'a qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe, et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant broche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il l'ait reçu, s'excusa de ce que sa gagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé de tous ses personnages, il n'en est rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné, et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, et je jure, devant Dieu, mon âme et conscience, qu'en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement. Chef du gouvernement.
Radio Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices de Radio Libertaire, l'émission La religion du marché sur la radio de la Fédération anarchiste. Alors, c'est une émission, donc, comme vous le savez, d'économie qui vulgarise les concepts et les théories économiques. Et qui a été créé l'année dernière. Lors de cette émission, nous allons vous parler un petit peu de la fameuse réforme de l'impôt à la source, en deux, trois mots, parce qu'il paraît que personne n'y comprend rien. Et il s'est passé, d'un point de vue médiatique, quelque chose d'assez intéressant, à savoir que lorsque les grands médias du capital ont cru que le gouvernement allait renoncer à cette réforme, il a expliqué que c'était assez inquiétant, que les gens s'inquiétaient, que finalement, il n'était peut-être pas de bon ton de se précipiter. Et puis, dès lors que le gouvernement a annoncé, et Macron en particulier, le Jupiter national, a annoncé que finalement la réforme aurait lieu en 2019, dès le 1er janvier, eh bien, changement de ton, reflux de l'orientation des éditocrates, et tout à coup, il s'agit de rassurer. Et donc, depuis mardi dernier, eh bien, la population est priée de se rassurer. L'impôt à la source est inoffensif, ne changera rien. Et tout va se passer très bien. Voilà, donc on va expliquer un petit peu les enjeux. Et puis dans une deuxième partie, eh bien, nous concentrerons sur une émission de France Culture. Une émission de France Culture qui a eu lieu le 15 août, donc en pleine vacances, hein, vacances des travailleurs, les congés payés, qui s'intitulait « Dieu se cache-t-il dans les marchés ?» avec un invité qui a commis un livre qui s'appelle « Des marchés et des dieux, quand l'économie devient religion ». Donc c'est un certain Stéphane Foucard, qui est journaliste au journal L'Immonde. Il était assisté pour cette émission de deux autres intervenants, des sociologues, hein, un sociologue Philippe Steiner de Paris 4 et un autre François Gauthier, spécialiste des sciences, entre guillemets, des religions, à l'université de Fribourg, en Suisse. Donc on présentera un petit peu ce qu'a été cette émission et ses points forts qui sont relativement mineurs et surtout ses failles qui, elles, sont absolument flagrantes. Et bien que France Culture soit la radio de référence pour un certain nombre d'auditeurs, en tout cas pas toujours ceux de Radio Libertaire, heureusement, eh bien il est une fois de plus démontré que France Culture n'est pas la seule radio à écouter, loin s'en faut. Vous avez sur Radio Libertaire aussi des émissions qui vous éclairent et parfois d'une lumière beaucoup plus puissante, beaucoup plus lumineuse, si j'ose dire, que celle un peu faiblarde que promeut parfois France Culture. Voilà. Alors, comme promis, première partie de l'émission, l'impôt à la source. Alors, on a eu beaucoup de propagande, hein, je le disais tout à l'heure, et on va revenir comme première source de propagande sur le site gouvernemental, hein, du ministère des Finances lui-même, qui a produit des petites vidéos, hein, très courtes, très simples. Il ne faut surtout pas inquiéter le peuple, hein. L'impôt, paraît-il, c'est pas compliqué. Et donc le ton, sur une petite vidéo de 2 minutes 30 secondes, se voulait rassurant, très pédagogique, avec des petits dessins. Et au bout du compte, au bout de 2 minutes, quelqu'un qui n'avait pas d'expérience, eh bien, et de cette communication économique, était complètement manipulé. Et il sortait à tort totalement rassuré. Alors la vidéo se présente ainsi, hein, on commence par différencier 5 cas. Le salarié, le retraité, le chômeur, l'indépendant et le titulaire de revenus fonciers. Alors bon, vous vous dites qu'avec ces 5 cas, ben, probablement on a fait le tour de la question, on a... repérer toutes les situations possibles en correspondance, en homologie avec tous les types de revenus possibles. Ben en fait, pas du tout, hein, puisqu'il manque quand même un élément de taille, c'est la très grande bourgeoisie qui, elle, n'a pas des revenus fonciers, mais essentiellement, de par la structure de son patrimoine, des revenus mobiliers. Et ça, évidemment, bon, on n'en parle pas, hein, dans l'impôt sur le revenu. Alors pourquoi on n'en parle pas ? Ceux qui sont les plus attentifs, hein, parmi nos auditeurs et nos auditrices, le savent. C'est parce que la réforme, l'arrivée du président Jupiter, a exonéré de la prise en compte du revenu les revenus du capital. Autrement dit, les revenus du capital ne seront pas traités, depuis l'arrivée de Jupiter, de la même manière que les revenus du travail. Bien, donc qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Ça veut dire que si vous gagnez 1 euro par le biais d'une spéculation financière, eh bien, il ne sera pas du tout imposé à la même hauteur que si vous gagnez 1 euro du fait de votre activité professionnelle. Bon, ça, c'est typiquement du Jupiter, hein, C'est vraiment la marque de fabrique. Et donc, on ne peut pas en parler dans la réforme de l'impôt à la source, de cette source de revenus, parce que les revenus du capital, vous le savez peut-être, ne seront exonérés, ne seront imposés qu'à 30%, dont 17,5% de cotisations sociales et 12,5% d'impôts purs. Autrement dit, c'est ce que les économistes appellent une flat tax, un impôt proportionnel au montant du revenu, particulièrement bas, c'est-à-dire un cadeau particulièrement beau pour les revenus du capital. Bon, ça, on en a parlé un petit peu il y a un an, à l'installation de Jupiter. Et puis depuis on n'en parle plus. On considère que c'est la normalité, que le capital soit beaucoup mieux traité que le travail, pour un gouvernement qui ne cesse de prétendre qu'il mise tout sur le travail, le retour au travail des chômeurs, l'allongement de la durée du travail pour les travailleurs au détriment des retraités. Eh bien, finalement, il est tout à fait logique pour ces commentateurs et ces politiciens de traiter le travail beaucoup moins bien que le capital, c'est-à-dire les revenus du travail beaucoup plus durement que ceux du capital, qui sont traités par l'État avec une grande douceur. Voilà, donc on a posé le décor et on explique que le salarié, eh ben, verra son impôt prélevé par l'employeur, que le retraité verra son impôt prélevé par sa caisse de retraite, que le chômeur verra son impôt prélevé par Pôle emploi, que l'indépendant verra son impôt prélevé par l'administration fiscale directement sur son compte bancaire, et que le titulaire des revenus fonciers, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la bourgeoisie moyenne, verra son impôt prélevé également par l'administration fiscale directement sur le compte bancaire. Autrement dit, eh ben c'est la remise des clés de la fiscalité de l'État vers le capitalisme privé, puisque c'est l'employeur qui prend le pouvoir, et la banque en fait, puisque c'est une intervention directe de la banque pour le compte de l'État en termes de prélèvement fiscal. Et également donc de l'entreprise pour le compte de l'État en termes de prélèvement fiscal. Donc c'est une remise du pouvoir. Alors quand on nous explique que tout ça n'est que technique, que c'est tout à fait anodin, que c'est pas du tout politique, la réforme de l'impôt à la source, que finalement, notamment dans les milieux libertaires, on sait très bien que l'impôt saigne le malheureux et que de toute façon, on peut rien y changer, qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Non, c'est réellement une démarche très politique et particulièrement favorable au capital sous sa forme industrielle ou sous sa forme bancaire. Alors, le but, en fait, il faut le révéler. Hein. Il s'agit finalement de confier les clés du camion au capital privé, c'est-à-dire que le prélèvement de l'impôt sur le revenu, à terme, on peut le parier, puisque c'est le rêve le plus fou de ces politiciens et de cette bourgeoisie, c'est de transformer cet impôt, qui est un impôt progressif, c'est-à-dire un impôt dont le taux augmente avec le revenu, c'est-à-dire un impôt dont la conception originelle, en tout cas, est de pouvoir réduire les inégalités de revenus, eh bien cet impôt pourrait à terme devenir, par fusion avec la CSG, la cotisation sociale généralisée, et le CRDS, hein, deux impôts proportionnels, eh bien devenir un gigantesque impôt proportionnel. Autrement dit, l'étatisation des caisses de sécurité sociale. Et qui dit étatisation des caisses de sécurité sociale, chacun l'aura compris, ça veut dire la fin des droits sociaux, puisque c'est l'État qui remettra en cause, tous les 5 ans, à chaque élection, à chaque nouveau gouvernement, eh bien des droits sociaux qui auparavant étaient posés dans la continuité des principes de la sécurité sociale. Et l'autre point, c'est qu'évidemment, déjà, l'impôt sur le revenu était un piètre outil de réduction des inégalités, car en dépit du taux progressif, il y avait tout un tas de niches. Les plus riches arrivaient très très bien à ne pas payer l'impôt sur le revenu, et pas seulement d'ailleurs en déménageant. Il y avait tous les moyens, déjà dans la loi, d'éviter de payer trop ou même d'éviter de payer tout court l'impôt sur le revenu pour les plus riches. Donc, répartition des tranches, on a aujourd'hui 5 tranches, c'est généralement dénoncé comme étant trop complexe. Les plus riches estiment que c'est confiscatoire, que bon, on confond volontiers pour abuser le populo taux marginal et taux général, c'est-à-dire qu'on arrive souvent à faire croire, souvent quand on est très riche, que le taux marginal de 45% correspond au taux effectif, ce qui n'est pas du tout la même chose, chacun l'aura compris. On utilise donc cette propagande, hein, ces véritables moyens de propagande pour faire consentir la population à aller vers la flat tax, hein, ce système qu'on peut qualifier de thatchérien, qui consiste sous couvert de simplification, à introduire un taux d'imposition sur le revenu qui serait proportionnel. Donc, c'est ce qui se fait dans un certain nombre de pays complètement imprégnés par l'idéologie dite néolibérale. Donc, typiquement, un taux d'imposition pour tous, le même, à 15%. Et on va prétendre que c'est l'équité, puisque chacun paye la même chose, le même taux. Pas du tout la même chose, évidemment. Et donc, ce type d'imposition, flat tax, eh bien, a un gros inconvénient, c'est qu'il creuse les inégalités. Autrement dit, les plus riches payent en réalité, malgré le côté nominal égalitaire, payent beaucoup moins que proportionnellement à leurs revenus que les plus pauvres. Et puis l'argument habituel qu'on nous annonce, qu'on nous assène, c'est que les autres pays de l'Union européenne, pas tous d'ailleurs, hein, mais quelques autres qu'on cite, l'Espagne, le Portugal, etc., etc., eh bien sont déjà depuis longtemps passés à l'impôt à la source. Et bien, puisque d'autres pays l'ont fait, ah, ça c'est absolument logique, c'est confondant de logique, il n'y a pas à discuter, il faut que le nôtre le fasse aussi. Bon, des arguments absolument grotesques, relayés toute la journée depuis mardi dernier par les grands médias du capital. Autre argument, eh bien, on nous explique que de toute façon, il ne faut pas trop faire de calculs, il ne faut pas trop chercher à comprendre, puisque 90% des contribuables payent entre 0 et 10% d'impôts, que ça ne changera rien, blablabla, blablabla. Bla, bla. Mais c'est ce qui est justement intéressant dans l'impôt, notamment l'impôt sur le revenu, bah, c'est les 10% qui payent un taux d'imposition supérieur à 10%. C'est-à-dire que c'est là qu'un État qui déciderait, qui serait tout simplement décider à mener une politique un petit peu réformiste de réduction des inégalités, mais c'est là qu'un État pourrait intervenir en prélevant beaucoup plus aux gros revenus. Mais là, évidemment, vous l'avez bien compris, chers auditeurs, chères auditrices de Radio Libertaire, là n'est pas l'objet. Voilà, donc vous avez l'ensemble des arguments. Peut-être on va entrer un peu plus dans le détail, parce que, évidemment, l'impôt à la source, personne n'y comprend rien. Et je crois que c'est un petit peu intéressant d'expliquer un peu plus en détail, au risque d'ennuyer certains, mais tant pis, ce qui va se passer. Donc on a le même système, hein, il faut continuer à déclarer son revenu chaque année, et à partir de là, comme précédemment, avec un barème complexe qui prend en compte les revenus. Ben, quand il y a un foyer avec deux couples qui ont des revenus, on additionne ces revenus, on prend les parts. Bon, c'est un barème un peu complexe, on a dit, un barème progressif, le taux augmente en fonction des tranches de revenus. Je ne vais pas ici détailler le mode de calcul, le taux continue d'être calculé par l'administration fiscale. Alors ce qui se passe, c'est la suite. Ce qui va changer, c'est la suite. Ensuite, si vous êtes salarié, ce taux est transmis à l'employeur. Donc, ça veut dire que, par exemple, si l'administration fiscale calcule que vous avez un taux de 8%, hein, qui est, je rappelle, le résultat d'un calcul un peu complexe, et que vous êtes deux personnes dans le couple avec deux enfants, en fonction du nombre de parts et de chacun des deux revenus, eh bien, on applique au revenu R1 du premier membre du ménage et au revenu R2 du second membre du ménage, le taux calculé de 8% par l'administration, et on calcule les deux impôts. Et ensuite, eh bien, chaque mois, ce calcul conduit à un prélèvement donc, qui va diminuer d'autant le salaire. Voilà. Alors, l'administration fiscale, c'est-à-dire le ministère, anticipe les inquiétudes et prétend que s'il y a un gros écart de revenus entre les deux membres du couple, eh bien, on peut opter pour un taux individualisé. C'est-à-dire qu'il s'agit à partir, par exemple, d'un taux de 8%. Si l'un des deux membres du couple gagne trois fois plus que l'autre, eh bien, l'un paiera 2% et l'autre paiera 6%. Donc, on va rendre les taux proportionnels au salaire des deux personnes composant le ménage. Et donc ça, ça a l'air très bien, parce que du coup, ça a l'air de masquer les disparités. Mais il est évident que pour un salarié, eh bien, le fait de demander un taux individualisé va intéresser son employeur, qui va chercher à savoir pourquoi ce taux est individualisé et qui va évidemment chercher à obtenir des informations sur les revenus du conjoint ou de la conjointe. Parce que la propagande de l'administration fiscale, du gouvernement, en fait, est de dire de toute façon, vous l'avez tous entendu sur toutes les radios, toutes les télés, de toute façon, avec un taux, on ne peut pas déduire la situation en termes de revenus et de patrimoine du ménage. Bon. Sauf que c'est totalement faux. C'est totalement faux, puisque dès lors qu'on a l'information, et les employeurs les ont tous, sur la composition familiale du ménage, le nombre d'enfants typiquement, le nombre de personnes à charge, eh ben, à partir du taux, il est assez facile et même élémentaire de déduire les revenus qui complètent le salaire distribué par l'employeur. Autrement dit, ça permet soudainement à l'employeur d'obtenir des informations par déduction, mais les DRH font ça parfaitement, ils savent très bien fliquer, surveiller, ficher et obtenir des informations sur leurs salariés. C'est même leur métier, ils sont payés pour ça. Et donc, évidemment, le taux calculé, même individualisé, permettra à l'employeur d'avoir des informations qu'il n'avait pas autrefois. Et puis, il y a une troisième catégorie de taux, hein, prétend le ministère dans sa propagande, c'est le taux non personnalisé. Et donc, ça consiste à, pour l'employeur, à verser à l'aveugle un prélèvement sans connaître du tout le taux. Donc, par exemple, un prélèvement de 8%, comme on prenait l'exemple de précédent. Et puis, il se peut que ce taux soit calculé à 10% pour l'administration, par exemple. Et alors donc, chaque mois, eh bien, le salarié devra verser un supplément, dans ce cas-là, à l'administration fiscale. Donc évidemment, ça exigerait de pouvoir communiquer avec l'administration fiscale, et là, c'est là que ça devient intéressant, puisque en réalité, ce qui se cache derrière cette réforme, c'est très vraisemblablement, à court terme, la fermeture finale des centres des impôts. Déjà, si vous essayez de joindre vos centres des impôts par téléphone, on ne répond plus, hein, c'est clair et net. On ne reçoit plus, pour ainsi dire, hein, les horaires d'ouverture sont de plus en plus réduits. Et si vous avez le courage de passer la porte, vous aurez à prendre une demi-journée d'arrêt de travail, tout simplement, hein, parce que ça va vous prendre la demi-journée pour accéder simplement un employé qui d'ailleurs est de moins en moins compétent, de moins en moins formé, de plus en plus stressé, de plus en plus débordé, et qui en général ne parviendra pas à résoudre le problème immédiatement. Vous pouvez également faire l'essai, simplement quelque chose d'aussi banal que payer une amende. Si vous avez une amende de 90 euros à payer, donc vous venez, vous refusez de la payer en carte de crédit, comme c'est votre droit, vous êtes muni de la notice de paiement de l'amende. Et il est inscrit que jusqu'à 300 euros, les centres des impôts sont obligés d'accepter les espèces. Eh bien non, les directeurs ont décidé, notamment à Paris, de ne plus accepter l'argent liquide. Donc les espèces, même pour une somme très faible, eh bien ils s'affranchissent de la loi, ils violent tranquillement la loi et ils refusent les espèces. Donc on va vous infliger une double peine. Non seulement vous allez faire une heure ou deux de queue, mais en plus, arrivé enfin au terme de votre attente, on va vous demander ce que vous auriez pu faire si vous aviez une carte bleue sans vous déplacer, c'est-à-dire de payer en carte bleue sur un terminal du Trésor, alors que vous auriez pu le faire sur n'importe quel ordinateur. Donc c'est du foutage de gueule organisé, et il s'agit, par des moyens assez grossiers, de dissuader le public de se rendre dans les centres des impôts. Voilà, et puis enfin, dernier élément de propagande, avec une autre vidéo qui a frappé mon imagination, hein, sur une chaîne d'information publique. On présentait la situation d'un foyer avec un homme, une femme, et miraculeusement la femme gagnait 5000 euros et l'homme 1300, ce qui est quand même, si les sociologues connaissent un petit peu ces situations, assez déroutant par rapport aux règles les plus communes sur l'homogamie. Mais admettons, et deux enfants. Et d'une manière absolument stupéfiante, la propagande expliquait qu'en optant pour le taux individualisé, eh bien, la femme paierait un taux d'impôt de 9% et l'homme de 0%. Alors, il n'y a pas besoin de faire de longs calculs, hein. Il est impossible que le taux d'imposition soit de 0% pour l'homme, puisque, comme on l'a dit, c'est une moyenne. Le taux individualisé, c'est une moyenne entre les deux revenus, 5000 et 1300. Et donc, à ce niveau de revenu, c'est-à-dire 6003 pour le foyer fiscal, les taux d'imposition sont beaucoup plus élevés. Donc, ça ne peut pas être 0%. À 6300 euros de revenus, c'est plutôt des taux d'imposition de 15-20%. Donc, même en faisant une moyenne, on ne peut pas trouver les résultats indiqués de 9% pour la femme et de 0% pour l'homme. Voilà, donc c'est des manipulations assez grossières, même carrément mensongères. Alors, qu'est-ce que ça peut inspirer ? Ben déjà, ça inspire, cette réforme, elle vise à créer du contentieux, hein, dans les couples. Donc, ce n'est pas sur Radio Libertaire qu'on va défendre la famille, mais tout de même, est-ce que c'est nécessaire tout à coup de favoriser le chacun pour soi à ce point au sein d'un couple, c'est-à-dire exiger que chacun paye ses impôts en fonction de ses revenus. Bon, après, on va payer sa brosse à dents, son café, sa bouteille de vin, ses cigarettes individuellement, et on va tout compter. Donc, c'est vraiment un moyen de créer une excellente ambiance au sein du foyer fiscal, hein. C'est vraiment la casse des ménages avec, une autoroute pour accélérer l'individualisme qui déjà détruit petit à petit la société. Et ben, l'autre point, on l'a déjà dit, hein, c'est que tout le pouvoir de l'État, l'État prétendu neutre, l'État prétendu arbitre, l'État prétendant œuvrer au nom de l'intérêt général, eh bien, il est transmis justement de l'administration fiscale vers les entreprises, c'est-à-dire que l'État remet tout le pouvoir au capital, non pas aux soviets, hein, vous l'avez compris, mais bien au capital, c'est l'entreprise qui va décider l'impôt. Alors évidemment, il y a un certain nombre de questions qui se posent, hein. Qu'est-ce que ça peut donner pour les salariés très précaires, qui changent très souvent d'employeur, pour les situations non stables? Évidemment, on sait que les entreprises sont très sujettes, notamment celles qui ont des l'activité internationale, à la fraude à la TVA, c'est quelque chose de très connu en Union européenne. Donc pourquoi ne pas, grâce à cela, par le même principe, hein, puisque l'entreprise est collecteur de la TVA, eh bien, l'entreprise collecteur de l'impôt sur le revenu pourra également imaginer assez facilement des moyens de frauder. Et puis, pourquoi ne pas se mettre en faillite une fois qu'on a prélevé l'impôt sur les salariés, histoire de ne pas le reverser à l'État et disparaître, en fin de compte, avec la caisse. Donc c'est extrêmement favorable en ce moment. Vous pouvez créer des entreprises et je crois que si vous en avez envie, il y a vraiment moyen des belles opportunités d'enrichissement rapide. Alors effectivement, peut-être il faudra envisager un départ à l'étranger, mais bon, il y a des latitudes où le climat est plus agréable que la France, après tout. Voilà, et puis l'autre point quand même, c'est que ça c'est plutôt favorable, c'est que les salariés vont s'apercevoir de ce qu'est réellement leur revenu disponible, c'est-à-dire que finalement, ils vont s'apercevoir à quel point leur activité professionnelle, qu'ils pensaient jusque-là très souvent absolument indispensable, ils se voient souvent nos salariés irremplaçable, eh bien, comment elle est finalement assez misérablement reconnue et misérablement payée. Parce qu'une fois qu'on a en bas sa fiche de paye, en bas à droite, un revenu aussi bas, un salaire aussi bas, une fois qu'on a déduit l'impôt sur le revenu, évidemment, ça peut permettre de gagner en lucidité Et ça peut aussi permettre de se demander pourquoi tout cet argent peut partir comme cadeau dans les entreprises, comme budget militaire en hausse, en lien avec les missions précédentes. Et évidemment, ça peut favoriser quand même, chez les plus lucides d'entre nous, un certain nombre de questionnements. Alors, le contexte fiscal, on l'a dit, hein, il est très très favorable au capital, avec la suppression de l'impôt sur la fortune, hein, c'est-à-dire l'exonération de l'impôt sur le patrimoine des plus riches, des fortunes mobilières, donc l'impôt ISF qui devient l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, c'est-à-dire l'impôt des millionnaires en exonérant l'impôt des milliardaires, le CICE, le crédit impôt compétitivité emploi, qui est maintenu, hein, ce sera des réductions de cotisations sociales pérennes pour les entreprises, donc un cadeau du précédent président Hollande qui est maintenu par son traître Macron. La baisse de l'IS, hein, l'impôt sur les sociétés, qui va continuer à baisser d'ici la fin du quinquennat. Il tombera à 25%, autrement dit, des cadeaux pour le capital. Et puis surtout, on l'a déjà dit, ce principe fondamental, 1 euro gagné par la possession du capital sans activité, va être beaucoup moins taxé que 1 euro gagné par le travail. Donc voilà, ça fait un ensemble assez complet, je crois, et je pense que vous pourrez maintenant mieux comprendre peut-être les enjeux purement politiques, hein, qui ne sont pas du tout des enjeux techniques, de cette réforme de l'impôt sur le revenu prélevé à la source. Voilà. Alors on va passer à la deuxième partie de notre émission. Et je voulais donc vous parler de cette émission de France Culture, le 15 août, journée mariale, hein, selon l'animateur de France Culture. C'était du grain à moudre d'été. Et ça s'intitulait « Dieu se cache-t-il dans les marchés ?» Alors, en introduction, les marchés étaient présentés comme des êtres lointains qui évoquaient une autorité religieuse. On parlait vaguement de culte du marché. Toute cette émission va être un peu à l'avenant, avec des échanges assez vagues, assez peu approfondis. Et il y a un terme qui reviendra, pour ainsi dire, jamais, qui est masqué par le terme marché, c'est évidemment le terme capitalisme. On ne parlera pas pratiquement, à part une fois peut-être, mais presque de manière accidentelle, du mot capitalisme. On préfère vraiment, en général, la plupart du temps sur France Culture, et encore plus dans les autres émissions d'économie sur les grands médias du capital, parler d'économie de marché. Pourtant, les deux termes ne sont pas du tout synonymes. L'un sert à euphémiser la violence des rapports sociaux de l'autre. Alors les trois invités, Stéphane Foucard, c'est un journaliste, hein, un journaliste scientifique du journal L'Immonde. Donc on l'a dit, il a rédigé un livre qui s'appelle « Des marchés et des dieux ». Le pluriel est important, hein, « des dieux ». Je vais vous expliquer pourquoi. Et sous-titre « Quand l'économie devient religion ». Alors, ça a attiré mon attention parce que, précisément, le nom de cette émission s'appelle « La religion du marché ». Donc, j'ai écouté avec attention plusieurs fois pour me demander, finalement, comment France Culture et ses trois intervenants allaient traiter cette question, qui est extrêmement importante. En économie, mais aussi en sociologie économique, en anthropologie, et donc problématique qui vraiment peut intéresser tout un chacun. Donc on a dit Stéphane Foucard, journaliste, Philippe Steiner, un sociologue, et François Gauthier, un sociologue aussi, spécialiste de « science » entre guillemets, des religions. Alors, bon, on va évacuer rapidement le cas de Philippe Steiner, qui a été quand même assez simplet, hein, qui a asséné des banalités, et on va plus se concentrer sur les deux autres. Alors Steiner, il nous explique que, bah oui, la relation entre le croyant et Dieu, elle est analogue à celle de l'individu et du marché, c'est-à-dire que le croyant est dépassé par Dieu et l'individu est dépassé par le marché, et donc ça rendrait l'analogie possible, blablabla. Bon, des banalités. Il nous explique que en revanche, cette analogie peut pas aller beaucoup plus loin. Parce que à partir du 19e siècle, la science économique, hein, faut peut-être mettre des guillemets parfois, se développe contre la religion. Et c'est là qu'on s'aperçoit assez rapidement que pour M. Steiner, en fait, la religion, c'est le christianisme. Donc il a absolument étriqué sa réflexion en la bornant de manière assez inquiétante d'ailleurs, en résumant la religion avec le christianisme. En effet, il explique, ce qui est vrai, que dans la théorie économique, l'individu cherche l'utilité. L'utilité, en tout cas dans la théorie économique orthodoxe, il y a même des fonctions d'utilité assez complexes mathématiquement, et que donc, au nom de cette recherche d'utilité, évidemment, quand on recherche son utilité individuelle, on ne recherche pas l'ascétisme. Et c'est là que l'erreur conceptuelle intervient chez Steiner, c'est-à-dire qu'il identifie la religion avec la recherche de l'ascétisme. Donc il a une vision très réductrice, en fait, de la religion, et une définition assez caricaturale, assez liée au catholicisme, hein, pour être très précis, c'est de la religion. Évidemment, c'est très pauvre, hein, c'est-à-dire que, théoriquement, avec... une telle erreur conceptuelle, bah, on aurait pu remplacer avantageusement M. Steiner par un autre intervenant. Alors que dit encore Steiner ? Bah, il dit que l'analogie n'est pas si valable parce qu'il y a des tensions. Il y a des tensions entre le monde économique et le monde religieux, et que donc ça ne se ressemble pas tant que ça. Par exemple, dans le prêt à intérêt, eh bien... l'Église catholique, bon, la religion musulmane aussi, a trouvé à redire au développement économique, au développement du crédit notamment. Bon, ça c'est quand même assez connu, mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y a une tension entre deux formes de pouvoir, l'un dit spirituel et l'autre économique, bancaire en l'occurrence, que ces tensions interdisent toute analogie. Alors il explique que dans la question du prêt à intérêt, que l'intérêt qui est condamné d'abord par l'Église catholique va ensuite être aménagé par notamment les jésuites et la casuistique, hein, c'est-à-dire qu'on va discuter au cas par cas de ce qui est autorisé soi-disant par Dieu et ce qui ne l'est pas. Bon, c'est exactement ce que produit la finance islamique avec donc la finance charia compatible. Ce sont des hybrides entre des juristes, des économistes et des religieux, ce qui donne quand même, convenez-en, une bouillie assez infâme. Voilà. Alors, donc, si l'analogie se limiterait, selon Steiner, à constater que la religion servirait à relier les humains, bon, moi, il m'a plutôt semblé que la religion sert à les opposer les uns aux autres et surtout à créer un obscurantisme à couper au couteau qui interdit toute émancipation et tout développement intellectuel. Mais ça, c'est une autre question qu'on évoque en général le dimanche matin dans l'émission Ni Dieu ni Maître. Et puis ben, que l'économie, par le biais du marché, c'est les lieux communs que nous balance Steiner, hein. Ça relie les hommes par la division du travail, blablabla. Donc aucune critique, aucune originalité dans la pensée. Et puis finalement, il nous dit à la fin de l'émission que ce qui pose problème, c'est l'écologie qui... selon lui, peut être intégré par la théorie économique. Ah bon, il nous explique ça, en reconnaissant quand même qu'il y aura des difficultés, quel prix donner aux ressources naturelles. Ben évidemment, même les économistes orthodoxes reconnaissent qu'ils n'y arrivent pas. C'est bien pour ça qu'ils appellent, par exemple, les pollutions de l'air, de l'eau ou des sols, des externalités, c'est-à-dire des dégâts commis sur l'environnement qui ne sont pas payés par les entreprises. Et c'est bien parce qu'on n'arrive pas à donner un prix que on appelle ça, dans la théorie orthodoxe, des externalités. Bon, et puis il nous explique que la théorie économique orthodoxe, donc toujours hein, pour M. Steiner, c'est l'optimisation sous contrainte, c'est-à-dire la recherche de la baisse des coûts pour obtenir un bénéfice. Et que ça, donc, c'est avant tout du compromis, c'est des calculs mathématiques, mais qui ne sont absolument pas la recherche d'un absolu. Parce que toujours, Steiner identifie la religion avec la recherche d'un absolu. Donc c'est sa définition de la religion qui pose problème. Parce que pour sa pensée économique, elle se résume finalement au balbutiement de la théorie orthodoxe, c'est-à-dire, bah, pour le dire clairement, du pipi de chat avec caution mathématique. Voilà. Bon, il reconnaît donc que tout ça ne fonctionne pas à cause de la dimension écologique, mais que quand même, on peut réussir à l'intégrer. Donc finalement, il n'y a pas tellement de problèmes. Et pour Steiner, en gros, ben, il refuse cette idée qu'on puisse établir une analogie entre religion et économie. Et pourtant, une analogie, il y en a une. Alors il y en a une, on va, c'est le point favorable du travail de Foucard, hein, le journaliste de L'Immonde, mais il commence dès le début de l'émission en précisant bah, que les gens qui identifient la croyance au marché avec une religion sont souvent des gens qui agissent sur le mode pamphlétaire, donc il n'y a pas du tout de raison de se sentir visé sur Radio Libertaire. Et beaucoup plus grave encore, qu'ils ont des propos, je cite, hein, à l'emporte-pièce. Voilà, donc c'est pas du tout le cas de M. Stéphane Foucard, qui est lui un journaliste du journal L'Immonde, hein, c'est-à-dire quelqu'un de bien établi et qui ne parle que à propos, en réfléchissant longuement, dès qu'il annonce deux, trois platitudes. Alors, il fait aussi des néologismes, M. Foucard. Il appelle cette religion du marché un agorathéisme, parce que toujours quand on veut se donner une importance, eh ben on fait un petit néologisme. Et donc il explique que en grec, agora a deux sens, d'une part la place publique, bien connue, ou aussi le marché. Donc l'agorathéisme, chacun aura rétabli l'étymologie, c'est la religion du marché. Alors il va appuyer son analogie d'une manière assez fine, il faut le reconnaître, parce que on aurait pu s'attendre, un peu comme Steiner, à une analogie entre religion d'une part et marché d'autre part, mais sous l'angle du christianisme, ce qui est évidemment assez difficile à mettre en place conceptuellement, parce que la religion du marché ne ressemble pas au christianisme. On va expliquer un petit peu pourquoi avec le troisième intervenant, François Gauthier, qui est beaucoup plus fin que les deux précédents. Alors, pourquoi ça ressemble pas Bon, déjà, on va dire pourquoi, selon Foucard, l'analogie est possible. Alors, il convoque Hannah Arendt, dans La crise de la culture, qui fait, en fait, déjà cette analogie. Donc, c'est pas quelque chose qu'il a imaginé lui-même, Monsieur Foucard, mais c'est pas grave, on va pas lui en vouloir pour ça. Il explique que, déjà, sous Rome, il y avait un lien entre le politique et le religieux. Alors il cite un historien français sans donner son nom dans l'émission, ce qui est quand même assez étonnant sur France Culture, mais bon, ça n'est que France Culture. Hein. Et il explique que cet historien français, anonyme, explique lui-même que gouverner sous Rome, c'est, entre guillemets, prendre soin des dieux. Et donc il va établir son analogie en disant, ben, aujourd'hui gouverner, c'est prendre soin des marchés. Voilà, donc les dieux deviennent les marchés. Bon, pourquoi pas, on peut le suivre jusqu'à ce point-là. Et effectivement, l'analogie avec la société romaine, bon, ça peut marcher. Sauf que, évidemment, dans les développements, il n'est pas allé très très loin. Et du coup, il ne s'est pas montré extrêmement convaincant. Par exemple, il compare les sacrifices antiques à l'investissement aujourd'hui. Bon, ce qui semble quand même assez grotesque. Puis surtout, c'est pas du tout étayé. Alors voilà, donc c'est cette analogie que nous propose M. Foucard entre la société romaine et son rapport entre politique et religion, et puis la société capitaliste et son rapport entre politique et marché. Autrement dit, encore une fois, on peut le suivre là-dessus. Les politiciens, aujourd'hui, prennent soin des marchés, c'est-à-dire essentiellement de la grande bourgeoisie. C'est le problème de la dénomination. Les marchés, c'est une abstraction. Parler d'une classe sociale qui domine la société, ça n'est plus une abstraction. C'est donc le problème fondamental de cette émission de France Culture. On reste dans une abstraction qui est absolument incompréhensible parce que le mot de classe sociale, le mot de bourgeoisie, la personnalisation des commandes de la société n'apparaît pas. Et c'était évidemment voulu dans cette émission de France Culture. Parce que l'animateur, à un moment, a essayé, même à plusieurs reprises, d'évacuer tout développement dans ce sens. Alors, que nous dit encore Foucard? Il nous explique que ce qui est aujourd'hui un consensus admis dans toutes les sciences sociales, c'est que l'Occident serait sorti des religions du livre. Et donc, cette idée de religion du marché n'aurait plus de sens. C'est assez simple à comprendre. Si on est sorti de la religion, il ne peut plus y avoir de religion du marché. Bon. Alors évidemment, c'est toujours la même confusion, confondre la religion et puis les religions monothéistes. La religion ne se limite pas au monothéisme, même si le monothéisme, les trois religions monothéistes sont évidemment les plus puissantes. L'idée religieuse, l'irrationalité religieuse, ce qui rend l'être humain vulnérable, enlisé dans l'obscurantisme, conformiste, c'est l'irrationalité organisée scientifiquement par une superstructure. Une superstructure, c'est un terme marxiste qu'il faut utiliser et qu'évidemment nos trois intervenants soit ne connaissent pas, soit n'ont pas voulu utiliser, parce que c'est, par exemple, le système éducatif, le système médiatique, qui, lui, répand jour après jour sur les consciences des créatures accablées, cette idéologie du marché. Alors, ça, évidemment, c'est surtout pas d'aller jusque-là. Donc, on est sorti de la religion, c'est entendu, et donc il ne peut pas y avoir de religion du marché. Alors, Foucard réplique, non, parce que ce n'est pas de la religion qu'on est sorti, c'est des religions du livre. Donc, les trois religions, christianisme, judaïsme et islam. Bon, alors d'abord, on n'est pas complètement sorti, même si on en est majoritairement en train d'en sortir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la population reste toujours soumise à la propagande, notamment des grands médias du capital. Et alors, pour expliquer un petit peu son idée, il explique que même un économiste aussi servile vis-à-vis du pouvoir que Daniel Cohen explique que il faut pas parler de croissance d'une manière aussi irrationnelle, qu'aujourd'hui le taux de croissance c'est notre nouveau dieu, et qu'il faudrait pas faire ça, même si lui le fait quotidiennement. Il y a donc une sorte de repentance assez étonnante chez ce Daniel Cohen. Et puis l'autre aspect, c'est que cette croyance, évidemment, il a une sensibilité écolo, Foucard, c'est que le monde physique, qui est limité, qui est fini, ne peut pas s'accommoder de cette théorie économique qui, elle, parie sur une croissance infinie. Donc ça, il n'y a pas besoin de faire de longues études pour le comprendre. Tout un chacun peut le comprendre. Donc c'était quand même assez évident. Alors le troisième intervenant et plus intéressant, c'est François Gautier. Donc il est professeur des sciences, entre guillemets, des religions à l'université de Fribourg en Suisse. Alors il repère certains termes, la main invisible du marché. Donc ça, c'est le grand théoricien Adam Smith, qui va expliquer que grâce au marché, la société est en harmonie, que les marchés sont autorégulateurs, qu'ils permettent l'ajustement de l'offre et de la demande, Toute cette théorie vulgarisée, très mal comprise et très mal transmise, qu'on enseigne dans presque toutes les universités du monde. Et puis il explique que des théoriciens comme Harvey Fox, qui est un théologien protestant, qui explique Markets as God, donc les marchés comme des dieux, Robert Milson, un économiste, secrétaire d'État dans des gouvernements états-uniens précédents, ont comparé l'économie à une religion. En France, l'écologiste Serge Latouche ou Christian Laval également sont sur cette ligne. Donc, la comparaison, l'analogie entre religion et marché est assez répandue. Hein. Ce n'est pas quelque chose de si étonnant et si original que cela. Seulement, pas n'importe quelle religion. François Gautier considère que justement, même s'il est rigolo, hein, c'est les termes utilisés, de comparer Dieu, le clergé, l'hostie, avec les structures hiérarchiques du monde économique, donc le clergé avec le président de la Fed, la Banque Centrale États-Unienne, etc. Bon, c'est rigolo, mais ça ne fonctionne pas fondamentalement, chacun le comprendra. Et donc c'est ce qu'il explique, l'échec de la matrice chrétienne dans cette analogie. En revanche, il considère que la société romaine et les religions, avec plusieurs dieux, donc, correspondent mieux, permettent mieux de faire fonctionner cette analogie dans le lien entre politique et religion. Et puis surtout, l'idée intéressante de François Gautier, c'est que il y a une efficacité fonctionnelle de l'analogie, puisque autant la religion a servi pendant des siècles à expliquer le monde, la cosmologie, la création du monde, le destin des humains, même si maintenant c'est terminé, eh bien, cette efficacité fonctionnelle, aujourd'hui, est dédiée au marché. C'est-à-dire que c'est le marché dont la fonction serait d'expliquer les comportements humains. Et ça, effectivement, c'est pas loin d'être très convaincant. Alors, quelles sont les conséquences ? Évidemment, il faut utiliser des indicateurs, parce que la différence entre cette idéologie du marché et puis la religion, c'est qu'il faut une caution scientifique. Donc on va construire beaucoup d'indicateurs, comme le taux de croissance, donc, qui est basé sur l'augmentation relative du PIB, le produit intérieur brut, dont on a déjà parlé à cette antenne, et la plupart du temps, les étudiants, la population est sommée de croire que le PIB représenterait la richesse produite dans un pays en une année. Alors évidemment, c'est faux. C'est faux, mais tout le monde croit que c'est vrai. Ce sont en fait que l'accumulation des flux marchands de biens et services. Et évidemment, c'est pas la richesse. C'est un peu comme si vous disiez que toute la richesse d'une personne se limite à son compte en banque. Bon, heureusement, on est parfois convaincu que des personnes ont une autre forme de richesse à l'intérieur d'eux-mêmes. Même pour une société, c'est pareil. Il y a d'autres richesses, hein, le patrimoine culturel, le patrimoine naturel, le patrimoine humain, etc., etc. Et la deuxième croyance, c'est que cet indicateur, qui est rien d'autre qu'un indicateur d'accumulation des flux marchands, cet indicateur conduirait au bien-être de la population, du moins son augmentation. Et ça, évidemment, chacun sait que c'est faux. Il y a des exemples assez connus. Quand vous avez des gigantesques accidents sur l'autoroute, ça augmente le PIB, même si ça détruit des matériels et des humains. Mais peu importe, puisque la croissance va augmenter. Foucard se fourvoie complètement, à mon avis. Il explique que si vraiment le marché devient analogue à une religion, comment vont réagir les autres religions ? Alors il explique que le bon Bergoglio va répliquer dans une encyclique en disant que Laudate Si, une encyclique à coloration écolo, qui, selon notre journaliste de l'Immonde, serait une attaque frontale contre le marché, qui considère comme un adversaire. Bon, évidemment, pour qui connaît la fourberie du bon Bergoglio, c'est assez grotesque comme argumentation. Alors, en ce qui concerne l'islam, il considère que la finance islamique a pour but de dominer l'agorathéisme, c'est-à-dire la religion du marché. Bon, là aussi, il n'y a pas d'opposition en réalité, hein, pour qui observe avec un minimum d'intelligence ces deux formes de pouvoir. On s'aperçoit plutôt que l'un est au service de l'autre et réciproquement, il y a plutôt une collusion qu'une concurrence. Et il observe d'une manière assez simplette, encore une fois, que dans le monde oriental, les religions orientales sont capables d'un syncrétisme avec le marché, ce qui conduirait, selon lui, d'une manière vraiment très très en raccourci, la pensée en raccourci pour M. Foucard, qui conduirait à prédire que la Chine serait l'économie numéro un grâce à cette capacité de syncrétisme des religions orientales, comme si la Chine était une société religieuse, et donc avec l'idéologie du marché. Bon. Et donc il prédit que le monde musulman n'y arrivera pas parce qu'il n'est pas dans une relation de syncrétisme. L'islam ne serait pas dans une relation de syncrétisme avec l'idéologie du marché. Voilà, donc c'est là qu'on s'aperçoit l'échec de la présentation de Foucard. Et on va terminer avec quand même des observations un peu positives, hein. C'est pour François Gautier, donc, qui lui explique, mais sans jamais utiliser les bons termes, que effectivement on peut se poser la question, mais il l'a simplement posé, ça n'a pas pu être développé dans l'émission de France Culture. Pourquoi on continue à entretenir cette croyance des marchés autorégulateurs, alors qu'on est averti depuis Keynes et Marx, c'est-à-dire depuis plus de 100 ans, que c'est faux, que ça ne fonctionne pas, que même empiriquement, la succession et l'accélération de la résurgence des crises économiques montrent bien, au contraire, que les marchés conduisent essentiellement au déséquilibre. Donc on peut se demander pourquoi tout l'enseignement universitaire prêche la foi dans les marchés, alors que l'évidence même est que le marché conduit à des déséquilibres, à des crises et à des guerres. Alors, il explique, Gautier, que le marché, finalement, l'idéologie du marché, c'est une des composantes de nos mythologies contemporaines, et qu'on aurait peut-être besoin de ces mythologies pour continuer à maintenir notre ordre social. Et donc, ça va sans dire, c'est une évidence sociale, et ça ne se discute pas. Il cite même Hegel, hein, c'est vous dire s'il a de la culture, la religion est ce qu'un peuple tient pour le vrai. Et donc le marché, le peuple y croit, et donc ça ne peut même pas se discuter. Voilà, donc je vais terminer ce petit exposé sur cette espèce d'usurpation, de supercherie qu'a été cette émission de France Culture, parce qu'il manquait l'essentiel des concepts qui normalement sont à mobiliser pour une émission d'économie et de sociologie économique de ce type. Il manquait l'explication de ce qu'est le capitalisme, le salariat, l'exploitation d'une classe sociale par une autre, la lutte des classes évidemment. Et puis il manquait également, on s'interroge pourquoi les gens croient au marché, donc il manquait l'analyse du rôle de la propagande par des médias qui sont détenus soit par l'État au service du grand capital, soit directement par le grand capital, et donc y compris la propagande organisée par la radio France Culture elle-même. Voilà, donc ça, je crois qu'on a fait le tour, hein, donc ça termine un peu notre émission d'aujourd'hui sur la religion du marché. Alors je vous donne rendez-vous, chers auditeurs et chères auditrices de Radio Libertaire, pour la prochaine religion du marché, car l'analogie, à notre sens, elle est totalement licite, et même s'il faut corriger religion en croyance, parce que finalement c'est une forme de croyance organisée différemment, avec un culte très différent évidemment de celui du christianisme, mais quand même il y a quelque chose d'organisé auquel toute la population est sommée de croire. Et c'est en cela que l'analogie est licite. Donc je vous donne rendez-vous pour la religion du marché le premier jeudi du mois d'octobre, et d'ici là, pour chronique syndicale samedi, et ni Dieu ni maître dimanche à 10h. Et maintenant, place au jazz. Thank you.